RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Vous le savez, comme à chaque fois, le meilleur coach de France est avec nous. Johan Durand, le maître Yodu. Salut Johan.
Salut à tous, salut Benoît, ça roule?
Ça va? Bah écoute, t'as l'air apaisé, reposé, ouais. Tout va bien?
Impeccable, je fais du jus, je fais de la fraîcheur pour revenir à 200% pour les prochaines échéances.
Ok, même le maître Yodu prend des vacances alors, ok.
Exact, bah j'en prends pas puisque je suis là, tu vois?
Pas de footing
même
en claquettes,
j'assure
pas,
tout le...
pas de tout ça.
Ouais,
non.
Aussi.
Ouais, un petit peu.
Bon. Non.
Johan, en tout cas, pendant tes vacances, tu prends le temps d'être avec nous, donc merci beaucoup. Merci d'ailleurs à la communauté RMC Running pour le soutien sur Instagram, sur le club RMC Running, sur Strava. Et on a un grand épisode qui vous attend aujourd'hui, un ami de Johan, un de nos amis aussi que vous allez découvrir. Vous le connaissez certainement si vous êtes connecté aux réseaux sociaux et à YouTube notamment. On va recevoir Paul Cabessa, qui est marathonien, qui est créateur de contenu, qui est comédien, qui est ambassadeur iPro. On parlera également de son rôle chez iPro, la gamme d'ultra frais conçue pour les sportifs. Paul, c'est un exemple de résilience que tu as la chance de coacher en plus, Johan. Et nous, on est ravis de l'accueillir parce que ça va parler, je l'ai dit, à beaucoup de nos auditeurs. Voilà, comment progresser dans la course à pied, comment rester motivé, quoi qu'il arrive, lorsqu'il y a des épreuves en course ou à l'entraînement. Vraiment un bel exemple qui va vous inspirer.
Et comment aimer ou pratiquer la course à pied quand on n'a pas un profil de coureur, hein, Polo? Je ne connais pas ses mensurations, mais
exactement.
Il est meilleur, je pense, dans une cage de MMA que sur marathon.
Bon, on en parlera dans un instant, tu as bien raison. On aura également deux bons plans matos. On vous offrera 4 lots de la gamme iPro. Avec chaque lot est composé de 2 barres protéinées et de 2 shakes protéinés. Et puis un autre bon plan, un gilet de chez Kinetic, la marque Kinetic. Un gilet qui est d'actualité vu la chaleur qu'il y a en France actuellement. Voilà, c'est un sac d'hydratation. Ah ouais. Magnifique cadeau. On sera avec Jean-Marie Loira, le patron de Kinetic, qui vous présentera ce beau produit. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Run. Vous avez entendu son rire, il est avec moi en studio, Paul Cabessa. Salut Paul.
Salut Benoît, merci de m'accueillir.
Ah non, bah, merci à toi. Ça fait des semaines qu'on prévoit d'enregistrer cet épisode. Tu es enfin là, dans ce studio. Tu as un rapport particulier avec Johan, je le disais, parce que c'est ton coach aussi, Johan Durand.
C'est ça, mon coach. Il m'a vu du début à la fin.
Et oh, il n'y a pas la fin encore.
Non, pas le début. C'est l'émotion, c'est l'émotion.
Ouais, c'est ça. Johan l'a dit, un profil particulier, on aura le temps d'en parler. Mais j'ai juste une question simple pour démarrer. Pourquoi tu cours, Paul, aujourd'hui?
Pourquoi je cours aujourd'hui, c'est ça vient d'un process. Hein. Pourquoi je cours, ça me permet de sortir un peu du quotidien, parce que je bosse sur les réseaux sociaux, ça permet de m'évader, ça permet d'avoir une discipline. Et voilà, hein, ça fait partie vraiment de mon quotidien aujourd'hui.
C'est devenu ton sport de prédilection, la course à pied?
C'est devenu mon sport de prédilection. Moi, de base, je viens du football, ouais. Je fais énormément de foot. Mm-hmm. J'ai fait mes premières classes, j'ai fait un an au Stade Rennais quand j'étais petit. Donc voilà, je viens du foot. Donc voilà, aujourd'hui, la course à pied, c'est quelque chose qui me motive tous les jours.
Comment tu cours en ce moment avec cette chaleur-là? Comment tu t'organises?
Alors tout simplement, là, je ne cours plus parce que je sors du marathon de Londres.
Eh oui, blessure en plus.
Blessure. Enfin, ouais. J'avais déjà j'avais une espèce de tendinite au niveau de la cheville, aussi au niveau des tendons. Mm-hmm. Mais j'ai quand même couru le marathon, difficilement.
Johan y était, pourra nous raconter. Il a assisté à tout ça.
J'ai essayé de sauver les meubles.
Il y a une petite histoire, effectivement.
Exactement.
Ah ouais. Ouais, je l'ai envoyé au front. J'ai renvoyé un soldat blessé au front.
Ah, bravo.
Il n'y a rien d'autre à faire. Vas-y.
Il y en a qui sauvent le soldat Ryan. Toi, tu as sacrifié le soldat Paul Cabessa. Quoi.
Ah, mais je l'ai sacrifié. Hein. Ah, la médaille 2.
Okay. La chance d'avoir coach Johan, mais coach aussi Kiné aussi. Johan Kiné aussi.
Alors, Johan Kiné, ça, je ne connaissais pas. Alors, Johan qui fait les strap, etc. Ouais. Là, ça partait mal.
Ouais. Veille de course.
Veille de course, ouais.
J'ai strappé.
Il m'a strappé mon tendon. On a essayé, mais.
C'est vrai que c'est le docteur Yodu aussi, on avait oublié.
Mais j'étais déjà blessé pendant la prépa, un petit peu blessé, donc ça va pas.
Ouais, mais tu y allais quand même parce que c'était un marathon exceptionnel à Londres.
Exactement.
Paul, pour mieux te découvrir, on attaque ton CV de coureur. Yes.
RMC.
Le CV de coureur.
T'as quel âge, Paul, aujourd'hui?
Aujourd'hui, 32.
Et tu cours depuis quand?
Alors, je cours exactement depuis 2024.
Ouais.
Ouais. J'ai fait le MPT, le marathon pour tous.
Le point de départ, c'est ce défi. Hein. C'est le ça. Marathon pour tous, le marathon olympique.
Exactement.
Avec la Team Orange à l'époque. C'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier.
C'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai eu un appel d'un bon pote à moi, Claude Henry.
Un pote en commun, on peut le dire, bien sûr, évidemment.
Et qui m'a fait cet appel de « Est-ce que tu veux courir un marathon ?» Bien entendu, j'ai refusé. Je dis jamais. Et il m'a dit, bon, on va commencer par un 10 km. Et il y avait un 10 km qui a été organisé dans Paris.
Ouais.
C'était la nuit.
Ouais, l'Orange Night Run.
Exactement.
Ouais, bien sûr.
Et t'étais là, Johan, je pense.
Bien sûr. Ouais. Oui. Alors, suffocante, ça, ouais. On s'en souvient.
Ah, il faisait chaud ce jour-là. Ah, oh là là.
Et je sais pas si tu t'en souviens, Johan, parce que tu me connaissais pas encore. Il s'est passé quelque chose aussi ici, mais moi, je m'en souviens très, très bien.
Oula. Qu'est-ce qu'il a fait encore ?
Je pars comme un footballeur. Donc,
À bloc.
Et Johan me voit. Et il me voit, je me rappelle très très bien. Et je sais que tu t'en souviens pas. Il dit, oulala, il part bien lui. Mais moi, je pensais que j'étais bien parti. Donc j'ai continué, mais au bout de 500 mètres, j'étais KO. Et au final, c'était une boucle de 5 km.
Ouais, ouais.
Au bout de 2 km, je me fais mal au mollet. Et en fait, j'arrive à la fin du bloc, et du premier 5 km. Et je vois Johan, et il y avait aussi... d'autres personnes de la team qui me font une espèce de hola en mode on savait que t'allais te blesser en fait.
Tu vois. C'est bon ça, bravo l'artiste. Voilà. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et le
premier bravo champion.
C'est ça. Ouais. Et là je me blesse ce jour-là. Et
voilà.
Et voilà, c'est la petite, le départ. Et trois semaines après, on me propose le marathon de
ouais, on s'est dit, on tient un sacré client là, on va le pousser jusqu'au marathon.
Exactement. C'est ça. Ça m'a fait l'effet inverse, ça me dit, bon, je vais me motiver.
Paul, tu cours combien de fois par semaine en moyenne?
Alors en moyenne, je cours 3 à 4 fois par semaine.
Ça représente combien de kilomètres en moyenne?
Peut-être 45, 50 kilomètres par semaine.
Ok. Ouais. Est-ce que tu as un record perso dont tu es fier?
Oui, j'ai un record perso. Le fameux 3h36 à Paris, après un an et demi de course. Donc,
c'est beau, hein.
Ouais, c'est cool. C'est tout pour le profil que j'ai.
Bah vas-y, je le fais pas habituellement, alors, là pareil. Je me permets. Les mensurations de Paul Cabessa, alors.
Alors, 1m93, ouais. 92 kilos.
Voilà, 1m93, 92 kilos. Ouais. Quand tu as commencé la course à pied, tu étais à quel poids?
J'étais à 1m93, ouais. J'étais à 110.
Et voilà, tu as attaqué une prépa, enfin en tout cas une prépa, un début dans le monde de la course à pied à 110 kilos.
Ouais, complètement, avec toute cette charge pondérale, on peut dire ça, cette charge.
Ça,
donc c'était compliqué, ouais. Mais ça m'a permis aussi d'avoir cette résilience, de me dire que tout est possible.
Exactement. Et c'est pour ça que tu es un exemple et qu'on s'en sert aujourd'hui justement pour prouver que tout le monde peut courir et pratiquer la course à pied.
Merci beaucoup.
Dernière course disputée, le marathon de Londres.
Yes.
La prochaine, ce sera quoi?
La prochaine, franchement, si, en vérité, ça serait aller à Tokyo, aller chercher le
marathon de Tokyo.
Le marathon de Tokyo, l'an prochain, et aller prendre peut-être tous les majors, parce que j'ai pu avoir Berlin, Sydney et Londres.
Ouais.
Et il m'en reste 4. Donc on va aller chercher ça.
Bon, il reste Boston, il reste Chicago, il reste New York.
Toute l'Amérique.
Voilà, exactement. Ouais. Le coaching. Ah,
les plus beaux presque. Ouais,
c'est vrai. C'est ça. Le coaching, c'est évidemment My Running Club. Quels sont tes rêves et tes objectifs à moyen et long terme en course à pied?
Alors, à moyen terme, on va dire revenir vite à l'entraînement, ouais. Parce que le tendon va mieux, surtout que j'ai eu le temps de me reposer. Et à long terme, franchement, j'arrive pas à voir plus loin parce que déjà ce que je vis, sincèrement, même être avec toi chez RMC, c'est. En fait, je vis un rêve, vraiment un rêve éveillé en tant que sportif. Quand t'es jeune, tu veux être pro footballeur et tout, mais pouvoir faire même autre chose, tu peux t'épanouir. Donc en vérité, c'est comme je t'ai dit, chercher des majors, mais en vérité, continuer à kiffer, continuer à profiter et découvrir des choses.
Voilà. Je me permets de raconter notre rencontre. On s'est rencontrés un jour à l'INSEP quand tu faisais justement une présentation de la High Profam, dont on parlera après, justement les ambassadeurs qui étaient mis en avant. Tu m'avais raconté ton histoire. Moi, ça m'avait un peu touché parce que c'est le même socle que finalement que beaucoup de coureurs qu'on reçoit. C'est-à-dire que tu démarres par le foot, un sport collectif. Toi, tu as un bon niveau, donc en plus, tu intègres le Stade Rennais. Puis il y a une histoire familiale aussi un peu derrière. Et il se passe quelque chose dans ta famille et finalement, tu te détaches un peu du foot et du sport par la même occasion, en fait.
Oui, complètement. C'est ça, donc moi, il y a un peu ma cellule familiale qui éclate un peu, donc mes parents divorcent. Donc le repère que j'ai avec mon père, qui était toujours là à mes entraînements, j'ai plus la motivation. Parce qu'on dit souvent que, là je parle un peu pour le cadre du football, il parle de sacrifice, c'est aussi mental. Parce que parfois tu joues parce que tu sais que ton papa est là, ta maman est là, donc il y a le cadre familial. Et quand il n'y a plus ça, j'ai plus envie de jouer au foot. Et on me propose, il y a possibilité, il y avait une possible signature à la JOCR. Il y avait Stade Rennais qui aurait pu, j'aurais pu continuer aussi là-bas en tant que jeune, mais j'avais plus envie. Et j'étais très scolaire, donc j'ai dit à ma mère, non, je vais continuer les études, et je jouerai dans le club de ma ville, et voilà. Et après, voilà, tout simplement, c'est...
Donc, tu as favorisé les études, tu as mis le foot un peu de côté.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu as fait comme sport jusqu'à reprendre la course à pied? C'était quoi ta pratique sportive?
Alors, ma pratique sportive, j'allais à la salle, je faisais pas mal de cardio, mais je courais pas.
Ouais.
Je courais pas énormément, je faisais peut-être 15 à 20 minutes de course, mais voilà, de l'entretien. Et pendant le Covid, j'ai vraiment mal vécu, j'ai fait une prise de poids. Donc, on est en 2021, mmh. Ouais. Fin 2020, début 2021, je prends énormément de poids. Je monte même à 112, 113 et je ne me reconnais plus.
Que 112, c'est deux yodus. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Pour donner un ordre d'idée.
C'est deux yodus, ouais. Voilà.
C'est yodu et un autre membre de l'équipe de France de marathon. Quoi,
ouais,
bon. Voilà. Et un peu coiné.
Nicolas Navarro et un yodu.
C'est
ouais.
Ça.
Ouais.
Et au final, je ne me reconnais plus et je me dis il faut sortir de cette spirale. Et il y a deux ans qui passent, entre-temps, je continue les réseaux sociaux et tout.
Alors, il faut que tu nous expliques ça, justement, comment tu perds sur les réseaux. Tu as une énorme communauté sur YouTube, notamment, il y a plein de contenu. Toi, tu es polyvalent, tu es à la fois créateur de contenu, tu es comédien, tu arrives à chanter, tu fais plein de trucs. Donc, tu as un univers qui est immense. Ça part d'où tout ça, les réseaux comme ça? Comment tu te lances déjà?
En fait, moi, j'ai eu 8 vies. Hein. Franchement, il y en a qui vont dire Paul Cabessa, Running, mais attends, je l'ai connu dans l'humour, j'ai connu dans la musique.
Bien sûr, à 32 ans.
À 32 ans. Moi, j'ai toujours été passionné par la création.
Ouais.
J'aime énormément créer. Moi, je suis comédien. En tout cas, je suis passionné par l'art cinématographique, comme je regardais beaucoup Charlie Chaplin.
Ouais, okay.
Et l'humour sans parler. Donc, ça touchait tout le monde. Et je pète sur les réseaux à partir de là. Je fais une vidéo sans parler qui est autour de l'humour et qui fait peut-être 100 millions de vues sur
Facebook. Et on est à quelle période là?
Là, à ce moment, on est en 2017-2018.
Ok, donc on est avant Covid. Toi, t'es pas un artiste du Covid. T'as pété avant le Covid.
Voilà, avant le Covid. D'accord. Et à partir de là, moi, l'humour, c'est toujours un truc que je kiffais aussi, l'art cinématographique.
Mm-hmm.
Mais le sport a toujours été là, en fait. Donc, ouais. Les gens ne le voyaient pas sur les réseaux sociaux, mais moi, je suis un vrai sportif. C'est-à-dire que je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Donc, aujourd'hui, être dans le running, pour moi, c'est une suite logique.
Ouais, ouais. Ok. Ouais. Mais alors, c'est ça qui est beau dans le profil de Paul quand tu as dû être amené à le coacher, Johan, toi et l'équipe de My Running Club, c'est qu'en fait, tu as une personne très disciplinée, amoureuse du sport et tout, avec des particularités physiques déjà, on l'a dit, ce gabarit à gérer, et à qui il faut faire accepter de s'entraîner régulièrement pour justement aller participer à un marathon. C'est toujours particulier, mais... Les points positifs, c'est qu'il y avait cette base, cette discipline et cet amour de l'effort, déjà.
Ouais, ça c'est le... Et puis c'est la base, c'est le plus important, ça c'est sûr. Du coup, avec Alex Leroy, qui est le coach de My Running Club, avec qui on travaille sur le coaching de Paul, c'est la vraie problématique, effectivement, tu l'as dit, c'est son physique un peu de rugbyman, tu vois, honnêtement. On a aussi coaché Benjamin Fall, qu'on avait eu dans le podcast, c'est un peu le même profil. Donc ce sont des coureurs un petit peu lourds, très motivés, qui ont une très grosse envie, qui rechignent pas et qui, même blessés, peuvent courir. Et c'est un avantage, comme ça peut être aussi un inconvénient. Tu vois, la vraie difficulté, c'est que des fois, il y a des signaux à surveiller chez ces gens-là quand ils ont des douleurs, des choses comme ça. Ça peut arriver beaucoup plus vite qu'un coureur un peu plus léger, j'ai envie de dire, grosso modo. Et donc après, il suffit, Paul, il a une grosse discipline, donc surtout, il va à la salle, il fait beaucoup de renfo et tout.
Ouais.
Donc c'est quand même... c'est quand même assez facile à coacher, et tout de suite on a senti en lui, moi je l'ai vu fondre, effectivement il l'a dit, il a démarré à 110-112 kilos, moi je l'ai vu fondre, je me rappelle de voir les photos Insta, il publiait des photos de lui un peu, et ça se voyait, la perte de poids était ultra régulière, et jusqu'à aujourd'hui son profil où il est à 80-93 kilos quoi.
Mais en tant que coach, est-ce que le poids comme ça et le gabarit de Paul, c'est un facteur limitant, ou s'il développe sa pratique, il peut aller chercher de magnifiques chronos malgré ce gabarit?
Ce qu'il faut savoir, c'est que les impacts au sol, ils seront forcément plus importants. Mmh. Donc Paul, c'était compliqué, c'est que il connaissait le sport, il avait déjà une pratique, fallait juste lui apprendre un petit peu à courir, à être un peu plus économique, un peu plus efficace et tout ça. Mais les impacts au sol, il les connaissait. Donc tu vois, là-dessus, c'est pas comme si quelqu'un, un sédentaire qui a jamais fait de sport, se met à courir et il fait plus de 100 kilos. Effectivement, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Mais les signaux, c'est juste que quand il a des blessures ou des choses comme ça, peut-être aller sur sur des sports un peu plus un peu portés, tu vois, aller à la salle, faire du rameur, de l'elliptique, du vélo, des choses comme ça. Mais après, c'est quelqu'un qui a un bon cardio, qui a perdu du poids, qui au niveau du renforcement des jambes est assez solide, qui est motivé. Donc, tu n'es pas obligé de faire 60 kilos pour pratiquer.
Non, bien sûr. Si, et c'est le message si qu'on veut faire passer aujourd'hui. De... Tout à fait.
Exactement,
c'est,
ouais.
C'est ça. Et franchement, merci, Johan, pour tes mots. Parce que c'est ça, je n'ai pas là, le même profil que les autres coureurs. Et en termes de performance, à mon niveau, le MPT, je suis à 4h43, mais il était très, très compliqué.
Oui, et puis c'est un premier, ouais, tu fais ça premier. La nuit, en pleine donc, chaleur, ça, pendant les Jeux Olympiques. Non, mais il n'y avait rien pour toi ce jour-là, ni rien. Pour les autres coureurs de ce marathon-là.
T'inquiète. C'est ça, il n'y avait rien pour moi. Et à partir de là, j'avais quand même une base de comment comprendre un marathon. Et au final, un mois après, je pars à Berlin. Même si ce n'est pas les temps pour se reposer, il fallait que je me repose.
Ah, tu as fait deux marathons en un mois.
Ouais, un mois.
Le marathon olympique et le marathon de Berlin.
C'est ça. Ouais. Mais comme a dit Johan, en fait, de par mon profil, j'ai capté ce que je pouvais apporter encore plus sur ma pratique de la course. Ouais. Et je sentais que j'avais encore les jambes. Et coach Alex, il m'a dit si tu te sens bien et que tu sens que tu n'as pas tout donné et que de manière physiologique, tu te sens bien, bah, pars à Berlin. Et au final, à Berlin, je fais 3h58.
Ouais, c'est solide. Hein
ouais, ouais.
Bah franchement, j'étais moins de 4 heures.
Moins de 4 heures. Et ensuite, Paris arrive 5-6 mois après, donc avril 2025.
Ouais.
Et là,
3h36.
3h36.
Exactement.
C'est ça. Et à partir de là, je commence quand même à me reposer. Je me dis, les autres marathons que je vais faire, j'en ai fait un à Sydney, j'enchaîne où je ne vais pas chercher un temps. Fin août, là, on a vu le parcours qui était beaucoup plus vallonné au final que Paris.
Bien sûr.
Je me suis calmé. Je me suis dit, bon, il y a quand même un plafond de verre de poids aussi.
Bah ouais.
Là, j'étais à 91 kilos. Je me suis dit, bon, on va pas... On ne pourra pas aller chercher plus pour l'instant.
C'est une perte de poids naturelle ou c'est parce que tu fais attention en plus de ta pratique sportive?
Alors, c'est les deux.
C'est les deux.
C'est une perte de poids naturelle, mais aussi je fais énormément attention au niveau de mon alimentation, mon sommeil, mon hydratation et tous mes apports nutritifs, que ce soit protéines.
Ah, et tu t'es remis en mode sportif compète, quoi.
C'est ça qui est beau dans le running.
Bien sûr.
Je me suis donné vraiment...
Et de dépasser ses propres limites.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Parce que les gens parlent de marathon, ils parlent de chrono, mais moi, ce que j'aime, c'est le process.
Ouais, bien sûr.
Ta vie, elle change, en fait.
T'as raison.
Tu rentres dans une espèce de bulle et t'es pas comme les autres, tu vois. Les gens, ils disent, mais qu'est-ce que tu prépares? Je dis, non, mais j'ai ma course. Mais tu fais tout ça juste pour une course.
Bah oui.
Mais c'est ça qui est beau.
Ouais, c'est dur, hein. C'est dur à comprendre pour l'entourage familial. Hein,
ouais, c'est ça.
On a le même combat.
C'est ça.
T'as raison. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi quand tu te mets à la course à pied? C'est les petits footings. T'as une base de footeux, donc tout ce qui est un peu fractionné court, tu connais ce type d'effort, donc t'as pas dû forcément souffrir. C'était plutôt quoi, les footings, les sorties longues?
Bah franchement, t'as tout bien résumé. Les footballeurs de base, nous, c'est les fractionnés, c'est l'explosivité quand même. Et en fait, c'était la régularité dans l'effort. C'est ça, la course. Donc, tu dois tenir...
La gestion de l'effort. Ouais.
Et ça, c'était compliqué de me dire, waouh, là, j'ai une sortie longue. Je dois courir pendant plus de 2 heures.
Ouais, bah, au début, ouais, bien sûr.
Exactement. Mais ce que j'aime dans la course aussi, c'est qu'au final, avant de courir solo, tu n'es pas tout seul. Parce que moi, j'ai commencé la course, j'étais entouré de monde dans les running clubs. Et tout.
Bien sûr.
Donc, moi, la course, j'associe ça vraiment au club, aux gens. En fait.
Ouais,
maintenant, je cours tout seul, mais j'ai les images de mes anciens entraînements. Et du coup, c'est bizarre, mais je ne me sens pas seul quand je cours.
C'est un sport individuel, mais aussi communautaire. C'est vrai que c'est le paradoxe de la course à pied. Et nous, on l'a vu avec Johan, on a encore fait un run communautaire la semaine dernière. C'est qu'en fait, tu es tout seul dans ta pratique. Mais tu te rends compte comme ça quand tu as des événements et que tu fais des séances partagées et tout, bah, qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent, Alors, c'est assez marrant d'ailleurs, je viens vous voir, j'ai l'impression que j'ai fait la prépa avec vous parce que je me suis préparé en vous écoutant et tout. Et puis finalement, les gens se réunissent par objectif et ça crée tout de suite du lien parce qu'il y a cette passion commune de la course à pied. Mais c'est bien que tu dises ça parce qu'à aucun moment, quand tu t'es lancé là-dedans, tu t'es senti jugé, que ce soit dans les sas de départ, les pelotons ou même les footings, n'importe quel footing que tu peux faire en bas de chez toi ou à l'entraînement.
Complètement en fait, c'est ça. Pouvoir parler avec Johan Durand, tout ce qu'il représente aujourd'hui, depuis le début, il m'a toujours donné des conseils comme si j'étais le plus gros des marathoniens, le plus fort des marathoniens, mais il m'a toujours respecté. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer, que ce soit Johan ou d'autres. En fait, on est tous au même niveau et ça a créé cette cellule saine pour pouvoir se dire, écoutez, je ne suis pas jugé, je ne suis pas le plus rapide, je ne suis pas le plus lent, et on est tous ensemble et on essaie de se pousser vers le haut, quel que soit.
Tu avais cette crainte au départ quand tu démarres?
Quand
tu te dis, vas-y, allez, je te suis, Claude Henry, je vais me lancer, je vais faire le marathon pour tous. Bah, quand tu commences la prépa, tu te dis...
Bah, quand je commence la prépa, je me dis, waouh, ça va être difficile. Ouais. Parce que je vois le volume d'entraînement et je me dis, waouh, je ne sais pas si je vais y arriver. Quoi. Et au final, bah, tu as pas mal de conseils. Et les gens te disent, on s'en fout, en fait, on est tous ensemble, tout le monde galère. Ouais. Tout le monde, si tu n'es pas fatigué pendant tes séances d'entraînement, c'est qu'elles ne sont pas assez bien. En fait. Ouais. Là, je me dis, bon, je vais me calmer. Quand tu viens du foot, bah, y a toujours ce jugement de dire, bon, tu viens de cette division, t'arrives dans le club.
Mais c'est pour ça que je te demande ça, parce que toi, toute ta jeunesse, t'as su être jugé, regardé par les coachs, on regardait tes qualités, il y avait toujours ce truc-là de, il faut que je sois performant pour me montrer et tout. Là, tu rentres dans un autre univers où finalement, tu cours pour toi, c'est ta perf personnelle et tout. Donc, c'est pas pareil.
C'est exactement, c'est ta perf personnelle et en vérité, tu récites une partition. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que tout ce que tu fais à l'entraînement, tu peux pas inventer un nouveau truc pendant la course, c'est-à-dire tout ce que tu as préparé, bah, tu vas le réciter si tout se passe bien,
ouais, bien sûr.
Pendant la course, alors que le football, si tu dois faire une analogie, le football, tu peux te préparer comme tu veux, et c'est un jour sans, et tu vas même être jugé par quelqu'un qui va te dire, bah, écoute, aujourd'hui, moi, j'ai pas vraiment aimé sa prestation, alors que d'autres ont aimé, donc c'est
exactement.
C'est un peu artistique parfois, alors que la course, c'est autre chose.
La question que je me suis demandé quand j'ai...
Ah, il y a un chrono sur la course.
Bah voilà,
un
chrono sur la course. Question que je me posais quand je préparais cet épisode, c'est... pourquoi enchaîner les marathons? Parce que c'est ta distance préférée? Parce que le marathon, c'est une aventure? Tu as l'impression de te prouver quelque chose? C'est tout ton process que tu aimes bien respecter comme ça, de 3 mois de prépa? Pourquoi tu t'axes pas parfois sur les semis, les 10K et tout ça? Non, c'est vraiment le marathon qui te plaît?
Bah, je vais te répondre. Ta question, elle est tellement parfaite. C'est le marathon, pourquoi j'ai, sans faire le mec spirituel, il y a vraiment une magie qui se crée avec cette course-là. Parce que elles sont toutes tes courses, entre toutes mes courses au niveau des marathons, elles sont différentes.
Ouais.
Ça veut dire que mon premier marathon, j'étais dans l'inconnu, je ne savais pas où j'allais. C'est là que je me suis mangé le mur, au 30, là j'ai compris ce que c'était aussi. Mais à partir de là, avec les difficultés aussi, tu apprends aussi à te connaître. Parce que tu poses énormément de questions pendant un marathon, tu as énormément de temps. Mais tu apprends beaucoup de choses sur toi-même, à l'instar du 10 km, où je trouve que la course, elle est cool, mais je trouve que tu dois partir à pleine balle.
C'est ouais, bien sûr. Chose.
Le marathon, c'est une autre discipline. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, tu as un process d'entraînement qui est différent. Tu dois mieux dormir. Tu vis un peu comme un moine. Tu dois un peu tout changer. Et voilà, c'est la difficulté du marathon, en fait, pour l'instant, elle ne m'a pas encore dégoûté. Vraiment, j'aime toutes les histoires que je peux vivre pendant les marathons.
Ouais, parce que c'est vrai que sur 10K ou semi, tu n'as pas le côté one shot de je peux en faire qu'un ou deux par an. C'est-à-dire que tu peux les enchaîner. Si tu en rates un, tu peux repartir la semaine d'après ou 15 jours plus tard.
C'est ça.
Johan, c'est la vraie différence. Et finalement, quand on écoute l'histoire et le profil de Paul, on comprend qu'ils se reconnaissent plus dans cette aventure-là, finalement.
Ouais, bah c'est ça. Il l'a dit, hein, le marathon, c'est une aventure. Et à chaque fois que tu te présentes sur une ligne de marathon, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, comment ça va se passer. T'as beau faire, je le dis souvent, mais t'as beau faire la meilleure prépa du monde, c'est pas dit que le marathon soit réussi. Et à l'inverse, des fois, tu fais des prépas qui sont horribles, qui sont pas belles, qui sont pas bonnes, où tu souffres, et le marathon, il se passe merveilleusement bien et tu bats ton RP. Et chaque marathon, t'arrives à actionner des leviers pour justement atteindre la ligne d'arrivée qui sont souvent différents. On ne court pas son premier marathon pour la même raison que son 10e marathon. La Londres, bah, pour Paul, ça c'était compliqué, c'était dur, mais mentalement, il est allé certainement chercher, puiser des choses qu'il n'était pas allé chercher sur son premier marathon. Et tout ça, c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque marathon, c'est vraiment une aventure différente. Et mentalement, ça te marque. Et après, bah, ça t'aide pour les suivants parce qu'après, t'as vachement plus l'expérience et tout. Mais il faut savoir pourquoi tu cours ce marathon-là. Quoi.
On va y arriver au marathon de Londres, mais je veux juste te questionner aussi là-dessus. Comment a réagi ton entourage quand t'as dit à tes parents, ton entourage, bah voilà, je vais me lancer, je vais faire le marathon pour tous.
Quand j'ai dit ça, ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle m'a dit, mais en fait, ça te représente bien.
Qu'est-ce que tu fais?
Et moi, j'ai toujours été très, très motivé depuis petit et j'aime toujours aller chercher des choses, vraiment aller
des
au bout des défis, aller au bout de moi-même. Et le marathon, c'est ça, c'est... tu vas chercher des objectifs, tu vas te chercher une ligne que tu pensais que c'était impossible au départ, et tu vas aller chercher ça. Donc c'est ça, ils m'ont dit, mais dans quoi tu t'embarques? Et au final, je les ai motivés aussi. Ma mère ne court pas, mais elle a repris un peu le vélo. Donc en gros,
c'est long. Tu as été un exemple dans la pratique et dans le goût de l'effort.
Exactement. Donc tu deviens, tu crées une espèce de synergie
ouais.
autour de tes proches et tout le monde veut, au final, on te juger, mais au final, bah, oh, moi aussi, je vais commencer à courir.
Ouais, ouais.
Donc, c'est cool.
Et toi qui draines une communauté et qui inspire des gens, tu les divertissais avant avec des vidéos, de l'humour, un peu de chansons, un peu de tout ça, toujours de la bienveillance. Quand tu t'affiches à faire de la course à pied, des entraînements et tout, est-ce que tu as eu des témoignages, tu as reçu des messages sur Insta ou sur les autres réseaux de te dire « Ah, merci Paul, tu me motives, moi aussi j'ai envie de m'y mettre, etc. »
C'est ça qui m'a touché, parce qu'au départ, moi, je le faisais pour moi.
Ouais.
Et au final, j'ai filmé un peu tout mon process de changement de poids, de perte de poids et process de course. Et j'ai motivé pas mal de monde qui m'ont dit « Je me suis mis au running grâce à toi. » Et c'est ça qui est beau.
Ouais.
Je me dis que...
C'est le plus touchant, finalement.
C'est le plus touchant.
Ouais.
C'est ça, bravo. Ce storytelling. Merci, coach. C'est ça qui est beau. Et tu te dis que tu fais pas les choses pour rien, au final.
Donc, ouais.
Donc c'est ça.
Voilà. Donc c'est pas une responsabilité supplémentaire. En revanche, c'est ta petite récompense comme ça de te dire, bah en plus il y a des gens que je peux inspirer. Donc
complètement et inspirer, cool. Et leur dire que en vérité demain ça sera un jour qui peut être bon et demain ça sera un jour qui va pas être top. Moi je suis pas tous les jours au top et je leur dis ouais mais regarde t'as les abdos et tout. Je dis ouais je peux avoir les abdos mais c'est pas à l'année. Tu vois, parfois tu peux te faire plaisir, parfois tu peux rater des courses et voilà et c'est ok en fait. T'es pas obligé d'être tout le temps à fond. On court pas tout le temps des marathons, mais il faut avoir cette discipline, faire des petites choses et en multipliant les petites choses, bah, tu vas te retrouver là où tu pensais pas être un jour. En fait.
Bon, venons-en à ce marathon de Londres, ce magnifique objectif, l'un des plus beaux majors. Hein, tu y étais aussi au DU, d'ailleurs, tu as encadré donc, Paul et le reste de la team. C'est mythique le marathon de Londres, l'arrivée devant le palais de Buckingham Palace. Donc, c'est une préparation d'hiver comme le marathon de Paris parce que c'est deux ou trois semaines après. Déjà, la prépa, comment elle s'est passée cette prépa du marathon de Londres?
Alors, c'était peut-être ma prépa la plus compliquée de tous les marathons parce que je cours avec une douleur que je traînais un petit peu.
Tu l'as identifié la douleur d'ailleurs?
Oui, c'était au niveau du tendon d'Achille et au niveau de la cheville.
Mais tu sais ce que c'est exactement ou pas?
Franchement, on dirait un sort Harry Potter. Hein. C'est tellement un long.
Un sort Harry Potter. ça tombe bien avec Londres.
Voilà.
Ouais, c'est bon.
Le nom est tellement, je peux le sortir là, j'ai dans mon
portefeuille. Ah ouais, non, mais t'as le diagnostic précis.
Ah oui, j'ai fait IRM, j'ai tout fait, mais quand j'ai lu le truc, j'ai dit c'est tellement long.
Ah ouais.
Et au final,
c'est quoi? C'est un peu de surentraînement, un peu de tout ça.
Ouais,
c'est quoi,
surentraînement. On m'a dit tendinopathie. Un truc
ok. Ah bah oui, Odu, il connaît bien. Ouais. Puis, ça, oui, c'est son domaine.
Et c'est ça, surentraînement. Surentraînement. C'est ça. J'ai pas laissé le corps assez se reposer.
Ok. Bon, Yodu, c'est ton domaine, ça, la tendinopathie.
Oui, non, mais c'est le domaine de pas mal de coureurs. Hein. Mmh. Il y a beaucoup de coureurs qui sont confrontés à ce genre de problématique au niveau du tendon d'Achille. C'est le problème des tendinopathies, c'est que c'est sournois, c'est que des fois, ça vous laisse tranquille et quand vous le surchargez un petit peu, bah, ça se réveille de nouveau. Malheureusement, pour Paul, ça s'est réveillé quelques semaines aussi, juste avant le marathon. Donc, il a fallu jongler avec ça parce que c'est pas évident. Des fois, quand ça t'arrive loin de la prépa, bah, tu peux aller sur d'autres sports, faire du renforcement et essayer de faire en sorte que la tendinite, l'inflammation se calme et la soigner. Quand ça t'arrive à 15 jours de l'échéance ou 3 semaines, bah, c'est un peu plus compliqué.
Ah.
Et des fois, il suffit de pas grand-chose pour la réveiller. Et je crois que c'est le cas de Paul. Mais voilà, il a quand même tenu à faire ce marathon avec cette blessure. Parce que tu vois, c'est une tendinite, tu peux pas. Tu vas créer des compensations, ça, tu vas enflammer encore plus le tendon, mais tu risques pas grand chose, grosso modo, à courir dessus. Quoi.
Ouais, il faut juste un seuil de tolérance de douleur. Quoi. Finalement, tu vas avoir mal.
Voilà.
Tu vas pas
et
aggraver ta blessure en
après,
courant
par
dessus.
Contre,
quoi.
Il faudra. Ouais.
C'est
bah,
ça.
Tu vas l'aggraver, mais derrière, tu vas perdre du temps. Mais comme Paul avait du temps pour derrière lui, il n'avait pas d'objectif à très court terme.
Ouais.
Donc tu peux avoir le temps de bien la soigner derrière. Quoi.
C'est ça.
Parce que Londres, c'est une opportunité que tu ne peux pas trop louper. Quoi.
Ah, tu ne peux pas trop louper. Et tu disais un truc, tu disais quelque chose de tellement intéressant tout à l'heure. Tu disais, tu courais pourquoi? Avant, je courais pour me retrouver, savoir, essayer de comprendre un peu plus le domaine de la course. Paris, c'était la perf, et Berlin, bon, c'était la suite un petit peu. Mais Londres, je l'ai couru pour ma grand-mère, en fait, parce que je l'ai perdu en début d'année. Et c'était mon objectif personnel. Ça, je ne l'avais pas dit, je le dis avec toi. Mais ça, c'était dans le coin de ma tête. Je me suis dit, au moment où je vais avoir vraiment mal, ça sera juste pour elle. Donc, c'était vraiment ça. Il y avait un côté assez spirituel.
Ah, ouais. Et ça t'a poussé dans les moments difficiles à aller... Quoi qu'il arrive, tu savais que tu irais franchir la ligne d'arrivée. Quoi.
Complètement. Okay. Complètement. Et à un moment, oui. C'était difficile. J'ai appelé Flora. Elle se reconnaîtra. Je dis, écoute, Flora, là, c'est compliqué. Là, je suis au 32e. Je pense à être un DNF. J'ai arrêté. Et super gentil, elle m'a dit, mais Paul, t'as déjà tellement fait. Tu vas pas t'arrêter comme ça.
Ouais. Et en mais à quel niveau de la course, là?
Au 32e.
Ah ouais. Ouais. Il te reste 10 km.
10 km.
Interdit,
mais...
là.
Ouais, mais... interdit. C'est interdit, ouais. Et j'avais aussi les mots de coach Johan qui me dit, en vérité, là, il reste 10 km. Et je me suis dit, bon. Moi, mon cerveau, ça fait l'effet inverse. Le fait d'avoir appelé à Flora, à qui je bosse, et lui dire que j'ai envie d'arrêter parce que j'ai trop mal, et qu'elle me dise, bah, tu peux t'arrêter. Dès que j'ai raccroché, je me dis, non,
je l'ai terminé. Voilà, donc, je vais aller au bout. Quoi. Ouais. T'as eu besoin de ce petit boost et ça t'a poussé.
C'est ça. Après, j'ai alterné course-marche parce que c'était très, très compliqué. Le tendon, j'étais à 15 sur 10.
Ouais.
Mais comme tu parlais de l'ambiance à Londres, oh là là, mais c'est... on m'a parlé de New York.
Ouais.
New York, apparemment, c'est incroyable, mais Londres, franchement, il faut le faire pour tous les néo-coureurs ou les coureurs qui n'ont pas encore fait Londres. C'est incroyable. Du 0 au 42, à un moment, tu te sens même plus légitime.
Ouais, c'est ça, c'est vrai. Hein.
Ouais.
C'est fou. Hein.
Ouais.
T'avais ton prénom sur le dossard ?
Je sais plus, j'avais mon prénom sur le dossard.
Ah non, malheureusement. Non, parce non. Que là, je peux te dire, sinon, Paul, t'en auras entendu partout, hein, c'est sûr.
Allez, Paul.
C'est ça, et quand, à un moment, je marche.
Il s'est mis.
Vas-y.
Ah, tu parlais.
Non, Paul, il s'était tellement mis dans sa bulle à ce moment-là, à cause de sa douleur et de finir son marathon, qu'il est passé devant nous. Nous, on l'attendait depuis, ça faisait 4 heures qu'on l'attendait. Il est passé, il nous a même pas vu. On était sur la zone d'encouragement avec Sport Tour.
C'est bon,
et
ça.
Il était tellement concentré, mais c'est très bien. Et c'est,
pardon,
c'est
moi,
tant
Johan.
Mieux. Et
c'est bon,
comme
non,
ça
il t'en voudra pas.
Son
t'inquiète
marathon.
Pas. Voilà.
Mais il nous a pas calculé une seconde.
Regardez les vidéos, je voyais. Johan, t'es pas allé là. Mais en fait, j'étais tellement dans ma bulle en me disant. Si je m'arrête ou si j'entendais les cris, les motivations, je me dis que le tendon, en fait, il ne faut plus que je l'écoute.
Ouais.
Et j'avais bloqué vraiment la douleur dans un coin de mon cerveau pour me dire que je ne sens rien. Mm-hmm. Comme un peu un mec qui marche sur des braises. Et voilà, donc on n'a rien lâché. On allait chercher cette médaille incroyable. D'ailleurs, on a eu un record fou de 1h59 et 30
secondes. Bien sûr, record du monde. Ouais,
deux, du coup, en vérité.
Oui. Oui, les deux. Alors, il est pauvre, oui, parce que le pauvre pour le deuxième qui fait moins de 2 heures aussi, mais qui n'a pas le record du monde, tout à fait.
C'est
ça. Kejelcha, ouais, exactement. Ah ouais. Mais ouais, le jour, t'étais à Londres le jour du record du monde, le jour où le premier homme est passé sous la barre des 2 heures au marathon.
Et ça n'a pas de prix. Moi qui suis fan de Kipchoge, Eliud Kipchoge, c'est juste fou.
Ouais.
Tout ce qu'il a pu donner au running et voir qu'aujourd'hui la barrière des 2 heures a enfin officiellement été brisée, c'est fou.
Tu l'as dit, en fonction de tes marathons, tu cours pas pour la même chose, parfois pour la perf, parfois pour l'aventure, parfois pour un proche. Parle-moi de l'émotion à l'arrivée à Londres. Il y a tout qui se bouscule quand tu es devant Buckingham, là c'est les 100 derniers mètres, tu as la douleur atroce, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors?
Bah, en fait, à ce moment-là, il y a tout qui se bouscule, j'ai un peu pleuré, mais je ne l'ai pas filmé.
Okay.
Et c'est là que tu vois que c'est ça la magie d'un marathon, comme tu as dit, tu peux courir pour un proche, tu peux courir pour toi-même ou pour les autres. Parce qu'il y a pas mal de monde qui courait pour des causes. Mmh. Et c'est là, quand tu dépasses cette ligne d'arrivée, bah, y a tout qui sort. Tu te dis, waouh, toute cette magie, elle vaut 42 km.
Ouais, exactement. Avant. Mais c'est très ancré dans la culture anglo-saxonne. On le voit moins sur le marathon de Paris ou d'autres marathons de masse. Mais moi, j'ai eu la chance de faire le marathon de New York aussi. Et tu verras quand tu le feras, je te le souhaite. Mais le nombre de personnes qui courent avec un t-shirt, je cours pour mon père, je cours pour ma grand-mère, je cours pour mon fiancé, mon fils, mon truc et tout. Et à chaque fois, ça te fait un regain d'énergie parce que tu te dis que les personnes sont là, elles sont au départ, il y a une raison derrière, c'est pour ça qu'ils se surpassent dans l'effort. Et même Johan, on en parle souvent, Johan, c'est limite plus touchant qu'un plateau élite où les mecs, bah, c'est leur métier, leur gagne-pain et forcément vous allez chercher des perfs stratosphériques. Mais quand tu vois une personne, et tu l'as vécu, Johan, avec nous dans le marathon de Paris, quand on accompagne des gens et que tu les vois se pousser, aller au bout de leur objectif,
c'est
tout le monde est gagnant et c'est trop touchant de se mettre à l'arrivée d'un marathon de masse, en fait, Yodu.
Ah, mais le marathon, enfin, à chaque fois, je le dis, mais quand tu te mets sur les derniers kilomètres d'un marathon, c'est assez dingue comment les gens arrivent à t'amener avec eux dans leurs émotions. Tu vis presque avec eux alors que tu les connais pas du tout, mais tu sens qu'ils sont pas en transe, mais ils sont en train de vivre un moment assez particulier pour eux, quelque chose pour lequel voilà, ils ont galéré pendant des mois pour préparer ce marathon, ils ont fait 42 bornes, ils sont allés chercher au plus profond d'eux-mêmes, parce que Paul, il te dit, j'avais une douleur à 15 sur 10, donc ouais. T'imagines même pas comment il était concentré, il était dans sa bulle, il essayait d'ignorer tous les signaux pour arriver sur cette ligne. Et par contre, une fois que la ligne est passée, effectivement, là, c'est un torrent d'émotions. Paul, on l'a perdu pendant 2-3 heures, on ne savait plus où il était, il était allongé, allongé dans le parc, perdu. Il a fallu qu'on lance les autorités pour le retrouver.
Carrément.
Mais voilà, ouais, ouais. C'est des histoires de dingue. Ouais.
Bon.
Histoires
de dingue. Bah ouais, exactement. Question quand même, parce que tu restes, c'est pas ton métier d'être coureur comme ça et de pratiquer des marathons, tu restes un créateur de contenu. C'est quoi l'organisation de ta vie aujourd'hui quand tu es en prépa marathon? Comment tu fonctionnes?
Alors, comment je fonctionne? Bon, déjà, il y a toute la création que tu dois faire pour les agences, les marques avec qui tu bosses à l'année. Aujourd'hui, j'ai, après tout ce, on va dire, cette tornade de running, j'ai la chance d'être ambassadeur chez AEPRO,
ouais.
Danone. Pour la petite histoire, c'est trop marrant parce que en 2024, quand il y a eu les JO,
ouais.
Je me retrouve dans les studios d'AEPRO. Ça, ils savent pas. Okay. Et il y avait un espèce de frigo avec pas mal de leurs produits. Et j'en avais volé 2-3. Mais...
Ah ouais, non. L'histoire d'amour part de là. Ok.
Ouais. Et 2 ans après, je signe en tant qu'ambassadeur.
Ah, c'est bon ça.
Et voilà, c'est marrant. Mais maintenant, ils vont le savoir.
Ouais, ouais. On peut y aller d'ailleurs, l'AEPRO Farm. Et je précise d'ailleurs, il y a 4 ambassadeurs. Ils ont établi ça sur 4 piliers d'ailleurs. Il y a des amis d'RMC Running. Il y a Mathias Andois, notre champion de BMX qu'on a déjà reçu. Il y a Alix Nobla qui est nutritionniste. Il y a Anne-Sophie Mounier aussi qu'on embrasse et qui est la compagne de notre ami Anto Mounier qu'on a accompagné sur le marathon de Valence. Et toi? Vous êtes 4 piliers parce que ce sont des histoires différentes. Il y a une coach, une nutritionniste, il y a Mathias qui est le champion de très haut niveau. Et toi, ce côté résilience, justement, dépassement de soi, etc. Dès qu'on te propose le projet, tu te dis j'y vais parce que j'ai envie de continuer à inspirer les gens d'ailleurs.
Complètement. Ce que j'ai aimé avec AEPRO, c'est l'approche. Elle a tellement été naturelle parce qu'ils m'ont dit, en vérité, on te signe pour toi. Parce que je voyais Mathias, champion du monde, 10 fois champion du monde de BMX, Anso qui a un gros club de Kambu Jump et Alex qui est dans la nutrition et dédicace aussi à Mathieu.
Mathieu Blanchard, c'est la compagne de Mathieu Blanchard.
Exactement. Mmh. Et ils me disent, écoute, nous, on te signe en tant que toi, donc pilier accessibilité. Monsieur tout le monde qui fait des petites choses avec grandeur. Ouais. Je dis, c'est complètement moi, donc en vérité... j'ai dit oui directement et ça a été clairement dans ma ligne édito, en fait. C'est moi, en fait.
Ouais. Donc, voilà. Et comment ça se passe dans ta nutrition au quotidien? C'est des produits que tu utilises régulièrement parce que AEPRO, c'est la gamme conçue pour les sportifs chez Danone. Effectivement, on le rappelle, souvent des produits frais. Ça peut être des milkshakes, ça peut être des barres protéinées, tout à fait. C'est plutôt à consommer après l'effort, d'ailleurs, je crois. Exactement. Comment tu l'intègres à ta pratique sportive?
Alors moi, je consomme les produits AEPRO essentiellement après mes séances. Pour la récupération musculaire, parce qu'il y a, comme a dit Johan, il y a des protéines et il en faut.
Ouais.
C'est important surtout pour quelqu'un comme moi qui a pas mal de masse musculaire. Et non, j'en consomme au moins une fois après mes séances, quoi.
Ouais.
Pour un produit. Donc voilà, il y a pas mal de gammes. Je prends des yaourts, tous les produits à boire. Vraiment, c'est des produits que je kiffe.
Alors, voilà, crack. Un produit frais, ça fait du bien. Ouais. Surtout après cette chaleur, bim. Ouais. Comme ça, ça réconforte un petit peu, quoi.
Ouais. Je le dis à chaque fois et que je suis vraiment fier d'être aujourd'hui ambassadeur d'une marque comme AEPRO, parce que c'est une consécration aussi pour quelqu'un qui vient du sport, pouvoir représenter.
Bien sûr.
Non, mais voilà,
Donc c'est gratifiant, c'est cool.
Est-ce que dans ta tête et dans ton mental de sportif, t'as un chrono qui te fait rêver? Est-ce que tu te dis un jour, sur marathon, je vais me donner les moyens et un jour, c'est ce chrono que je vais aller atteindre? Tu es à 3h36 pour l'instant, tu l'as fait en avril 25 au marathon de Paris.
Exactement. Alors, avant de te répondre à cette question, en vérité, dans le running aujourd'hui, tu connais autant que moi, voire mieux, tu sais qu'il y a des paliers, en fait.
Bien sûr.
Même ce chrono, les entraînements doivent être, en accord avec ce que tu veux. Vraiment. Donc, moi, mon rêve, en vérité, c'est de casser ce 3h30, aller chercher. J'ai fait 3h36, je voudrais courir en dessous les 3h30, même pas 3h30, hein, je voudrais faire un 3h28, 3h27 pour flex.
Ok, ouais, tranquille. Ouais.
Ouais, tranquille. Mais voilà, je suis en accord avec les. Je sais ce que je dois faire. Parce que les entraînements doivent être un peu plus poussés. Et aussi, il y a un truc qu'on a dit au niveau de la masse musculaire. Je dois descendre en dessous les 90 kilos pour être plus à l'aise pendant mes entraînements. Parce que quoi qu'on dise, c'est possible. Hein. Je pense que même si tu fais entre 90 et 92, tu peux courir en dessous 3h30. mais juste pour être à l'aise pendant les entraînements, parce que parfois c'est difficile. C'est difficile.
T'as des douleurs articulaires ou particulières ou musculaires sur des sorties longues ou pas, non?
Surtout, on va dire fin de prépa. Au niveau des chevilles, ça devient lourd. Ouais. Ça commence à faire mal. Mais je sais que si je descends tous les 90 kilos, je serai plus à l'aise et je pourrai aller chercher ces 3h30. Quoi.
Après, il y a une notion de poids de forme et de poids dans lequel tu te sens à l'aise aussi. C'est-à-dire que être en dessous de ton poids de forme, c'est aussi un handicap dans ta pratique sportive. C'est là où il faut être accompagné. Peut-être.
Exactement. Donc, il y a ce petit jeu entre poids de forme et on va dire le poids qui va te permettre d'aller chercher donc, tes records. Et aussi, surtout, il y a ce truc aussi de faire sa sèche, entre guillemets, avant la préparation, avant les entraînements, parce que parfois tu vas faire les deux en même temps et ça va être contre-productif. Ouais. Tu vas être fatigué parce que on dirait que tu as un déficit un peu calorique ou tu as changé ton alimentation et tu as tout cet entraînement qui est difficile. Donc faut le faire avant, genre 2-3 mois avant. Donc c'est pas facile.
Mais tu te connais, tu te fixes un objectif, tu te dis j'ai 3 mois de préparation spécifique, j'ai quelques kilos en trop, je vais me prendre en main. C'est juste un effort au niveau de la nutrition et après, tu peux attaquer la prépa affûtée.
C'est ça. Et en vérité, dans ma tête, je ne le prends même pas en mode effort. Je le prends vraiment comme si ça faisait partie de mon quotidien. Si je veux arriver à cet objectif-là, je dois manger de cette manière, de manière un peu plus saine pour être plus performant et plus léger en fait, sur les appuis. Donc, voilà.
L'avis du coach, 3h30, c'est un objectif tout à fait réalisable, Yodu.
Mais bien sûr. Bien sûr, c'est tout ce que réalisable. Paris, on le sait, c'est pas non plus un parcours ultra, ultra favorable. Après, il faut le faire sur un marathon bien préparé où il n'y a pas de pépin physique. Là, la difficulté de Londres, c'est qu'il y avait cette pathologie au tendon d'Achille qu'il faut réussir à soigner pour partir sur une nouvelle vraie bonne prépa. Et il l'a dit, après, moi, je l'ai vu, sa transformation physique. Aujourd'hui, il est beaucoup plus musculeux aussi. Il est plus léger en poids, mais avec plus de masse musculaire. Donc, quelque part, c'est vraiment très bien parce que le gras, il n'y a plus trop de gras autour de Paul. Maintenant, c'est beau.
Allez voir la photo marathon de Londres, affûté, bien sûr.
Il est très affûté. Donc, il va partir déjà avec une base beaucoup plus importante que par le passé. Il a cette expérience maintenant du marathon, de l'épreuve, de la gestion de l'effort, de la gestion des allures, de la gestion des ravitaillements. Tout ça, c'est très important. Et il peut largement faire moins de 3h30 sur un marathon roulant avec, comme il a dit, en démarrant une prépa, déjà un petit peu en forme et pas blessé. Et là, il n'y a pas de raison de faire beaucoup mieux.
Et nous, on t'aidera. Voilà. C'est quoi, on t'accompagnera et on t'aidera à aller sous les 3h30 au marathon. On verra quand est-ce qu'on le réalise, mais nous, on serait très heureux de t'accueillir dans RMC Running et de t'accompagner sous ce beau défi, tu vois, cette belle barre mythique.
Avec plaisir, franchement, je suis content de faire partie de la famille.
T'es là, et nous, on a envie de t'emmener et que tu continues à inspirer les gens. D'ailleurs, c'est la question que j'avais, c'est est-ce que ta pratique de la course à pied a influencé ce que tu fais sur les réseaux, ta façon de créer du contenu?
Complètement. Là, depuis un an et demi, deux ans, je suis full sport, full running. Et je partage, que ce soit en direct avec les abonnés, parfois en DM, je leur donne des conseils à mon échelle. Je leur dis vraiment des conseils simples, des conseils de résilience, de se dire que tout est possible. C'est-à-dire que vous partez du niveau zéro pour vous, mais en vérité, il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire que j'ai toujours cette image de... Il y a des moments où on a une courbe qui peut monter et descendre, mais quand tu regardes la courbe d'une perspective un peu plus
lointaine,
voilà, tu vois qu'en fait, tu es en constante montée. En fait. Ouais. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y aura des moments de doute, mais en vérité, l'histoire peut être tellement belle si on lâche pas.
Exactement. Et comme tu le dis, c'est le process qui compte. C'est-à-dire que même si la course le jour J se passe mal, vous savez que vous avez progressé, ça vous servira pour la suite. C'est le message qu'on n'arrête pas de marteler dans RMC Running.
C'est ça, complètement. C'est le process qui compte. La perf, le chrono, c'est bien, c'est un indicateur, mais c'est la récompense.
C'est la petite cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau en général.
C'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est l'histoire, les rencontres que tu crées, un coach qui te met un strap à Londres, un coach qui était champion de France et qui est trop trop fort, qui performe encore trop fort et qui te donne des conseils et tous les gens que tu peux rencontrer dans le running. Je trouve que c'est ça l'essence du running, c'est les rencontres et toutes ces histoires que tu peux créer sur la course et en dehors.
Bon, et bah Paul, merci beaucoup. Je te remercie aussi parce que grâce à ta venue, on met donc en avant des produits iPro qu'on va faire gagner à notre communauté. C'est 4 lots qu'on fait gagner aujourd'hui dans RMC Running, sur nos réseaux d'ailleurs, sur Instagram et sur Strava. Chaque lot est composé de 2 barres protéinées et de 2 shakes protéinés. Comme ça, vous testez la gamme iPro et c'est excellent pour un produit de récupération. Faites-vous plaisir, après vous ne pourrez plus vous en passer.
C'est ça, Vanille Cookie, mon préféré.
Ah voilà, Vanille Cookie, c'est le goût préféré de Paul. C'est ouais. Le petit tips comme ça, supplémentaire.
Pas mal, pas mal.
Pour Paul. Tout de suite, on passe au bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et aujourd'hui, dans RMC Running, on met en avant Kinetic, le concepteur français de vêtements performants running et trail, des vêtements mais aussi des sacs d'hydratation. C'est un produit qu'on va faire gagner aujourd'hui grâce au patron de Kinetic qui est avec nous, c'est Jean-Marie Loira. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bonjour l'équipe.
Merci d'être là.
Bonjour.
Pour ce produit qui est d'actualité, canicule partout en France. Donc, on va mettre en avant ce sac gilet ultra léger qui peut devenir un allié incontournable dans la pratique sportive. Jean-Marie, en ce moment, il faut emmener de l'eau quand on part en sortie de course à pied.
Ah ben, avec les températures, c'est plus qu'indispensable, c'est presque vital. Ou alors, c'est un choix. C'est un choix, il ne faut pas y aller. Quoi, hein. Je pense que... Ouais. On a vu des drames qui sont produits les derniers jours. Il faut faire très très attention. Alors ouais. je dis pas ça pour nous, hein, quelle que soit la marque, mais non, faut faire très attention. Ouais.
Ah bah vigilance extrême, évidemment, et c'est pas le moment d'aller se tester sur des allures trop poussées dans ces conditions météo. On l'a rappelé avec Johan lundi dans RMC Running. Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la marque Kinetic, l'histoire et justement l'ADN de cette marque?
Bah, écoutez, à ma connaissance, jusqu'à hier, on était toujours la seule marque bretonne spécialisée dans le trail running. Mm-hmm. Hein, c'est une marque qui est née en 2009 dans les Côtes d'Armor, à côté de Saint-Brieuc, sur la côte, sur la Manche. Là, voilà, qui est une marque indépendante, une entreprise, comment dirais-je, familiale, indépendante, où il n'y a pas de groupe derrière. On a évolué, on s'est démarqué par des concepts, puis également par de l'audace, un peu en design. Et voilà, on a progressé. Aujourd'hui, on fait partie des, on va dire, top 5 ou top 10 au pire dans les marques sur l'Hexagone. Voilà, à peu près. On est spécialisé dans la. Alors, on conçoit des vêtements de trail à la base et puis alors une passerelle sur le running qui est assez étroite. Donc, on est parti sur beaucoup sur le running, notamment pour les femmes. Et avec des choix audacieux dans le design et dans les matières. On a toujours été fervent de l'ultralight. C'est notre déformation par notre expérience passée.
Je vous laisse aller voir le sac d'hydratation mi-marinière, mi-léopard. Ouh. Ça, c'est un truc. Hein. Voilà, je montre à Paul en même temps.
Et moi, je suis originaire aussi du Congo. Et donc, léopard, nous, c'est...
Et voilà, bah oui, donc, léopard du Congo, voilà, bien sûr. Ah bah voilà, exactement. Ouais, non, mais c'est très original. En tout cas, vous êtes reconnaissable parmi tous les sacs d'hydratation, ça, c'est sûr. Et il y a toute la gamme aussi vestimentaire. Il y a même une gamme en hommage à l'ultramarin, Jean-Marie.
Ouais, on est partenaire de l'ultramarin. Ça va faire la troisième année. Alors, c'est un acteur quand même important pour nous dans le Grand Ouest et maintenant en France. Hein, c'est une magnifique épreuve. Et puis, qui est un peu dans les mêmes cultures que nous, forcément, parce qu'ils sont bretons. Et nous, l'idée, c'est de renforcer notre image bretonne, d'être démarquant par nos origines, notre culture, sans être clivé non plus à la Bretagne. Mais on a un magnifique laboratoire de développement qui est la Bretagne avec les conditions climatiques, l'environnement, les landes, le GR, la mer. Enfin voilà, c'est propice.
Oui, parce que j'allais vous dire, en tant que marque bretonne, vous vouliez pas vous spécialiser dans les kawés, non ?
Dans le kawé.
Ah, c'est pas gentil ça. Non. Non, mais par contre, alors, vous faites bien dire, parce que on a vraiment un gros savoir-faire sur les vestes, et notamment on a été précurseur de la veste. Alors, on faisait la veste membrane, voilà, mais qui sur laquelle nous, on préconise pas cet usage en running parce que il y a un effet d'étuve qui fait que vous n'êtes pas trempé par la pluie, mais vous êtes trempé par la sueur qui est générée parce bien que ça fait un effet de d'étuve. Par contre, on a une veste qui est la Spectrel, qui est un bijou de technologie. Et qui en plus sur lequel on peut apposer des designs qui sont juste incroyables.
Non mais c'est beau là avec Paul, on a flashé sur le Bob Canyon Léopard. C'est ça. Ah, bravo, là.
Il y a des chaussettes aussi, non?
Ah, il y a les chaussettes aussi, bien sûr. Regarde les chaussettes,
ah ouais,
Paul.
Allez, au pareil.
Voilà, c'est toute la gamme. Magnifique. Je l'ai dit, on met en avant ce sac, donc le sac kinétique, capacité de 3 litres. Pareil, est-ce qu'on peut en parler? C'est la spécificité justement de vos sacs d'hydratation, c'est qu'ils sont au départ extrêmement légers, hein, 65 grammes. Ça permet comme ça de se charger et pas avoir un surpoids avec le poids déjà du gilet.
Ouais, alors pour une idée, pour donner une idée, 65 grammes, c'est l'équivalent d'une mandarine. Donc, enfin, ah ouais. Je sais pas si ça, mais clairement, c'est ultra light. Et alors pourquoi? Tout simplement parce que on est toujours parti du principe que le poids est rédhibitoire en running et surtout et dans le sport de manière générale. Hein. Moi, je suis issu de la voile où en course au large, on coupe les manches des brosses à dents pour vous donner le point où on pousse c'est rédhibitoire. Et donc, c'est rédhibitoire dans plusieurs sens. Directement dans la performance, mais également par exemple dans des temps de chaleur comme ça, où forcément quand le poids, qui dit poids, plus de matière pour évacuer la transpiration, excès de chaleur, etc. Donc on a été les premiers il y a 7-8 ans maintenant à sortir ce sac ultra minimaliste 65 grammes, et en fait on le porte maintenant comme un vêtement. Et c'est... Alors, historiquement, il faut dire que les sacs d'hydratation, quelles que soient les marques, sont issus de la randonnée. Et puis, on est parti en les mettant de plus en plus légers. Nous, on n'est pas parti de cette base-là. On s'est dit, le running, ce n'est pas de la rando. Ouais,
vous avez bien fait.
D'autres sollicitations. Voilà. Et exactement. Voilà. Donc, on a sorti le sac Rocket qui fait... qui a gagné l'échappée belle, qui a dû faire un podium à la Diag. Enfin, qui... Bon,
c'est bon, ça en fait le palmarès des sacs désormais. Bravo, bravo Jean-Marie. C'est vrai, ça compte.
Non,
vous avez raison.
Non, mais je le dis parce que en fait, on reste une petite marque et que forcément, on n'a pas les moyens de communication des très grands et qui nous permettent pas de mettre en avant aussi ce qu'a fait ou ce qu'ont fait les petites marques comme les nôtres, quoi.
Eh ben, vous avez bien raison et nous, on est ravis de vous mettre en avant. Bravo. Donc, Kinetik, c'est K-I-N-E-T-I-K. Vous allez voir sur Internet. Vous commandez directement d'ailleurs sur le site Internet. C'est le mieux, Jean-Marie ?
Oui, alors... On a un parti pris, c'est qu'on travaille très peu avec les magasins.
Okay.
Et voilà, c'est un choix. Et voilà, donc on a tout un service qui est forcément adapté à cette contrainte. Mais voilà, on fait du bon boulot de cette manière-là et on préfère, c'est une certaine indépendance.
Il n'y a pas une poche à Kouign-Amann ? Non, c'est pas prévu.
Il y a un emplacement qui est prévu pour ça.
Ah, il y a un emplacement, c'est excellent.
Ouais.
Bon, magnifique. Ouais. Jean-Marie, merci beaucoup et je vous remercie parce
qu'un
sac d'hydratation, un sac Rocket à gagner pour notre communauté sur le compte Instagram. N'hésitez pas, le concours sera mis en ligne dès la sortie de l'épisode. Merci Jean-Marie, à bientôt dans RMC Running.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Un grand merci à Paul Cabessa, notre ami Paul Cabessa, exemple de résilience et voilà, qui peut tous vous inspirer dans sa pratique sportive. Paul, qu'on accompagnera sous les 3:30, on s'est engagé, Yodu, on fera pas demi-tour.
Ah, c'est bon,
hein.
Facile.
On va l'emmener.
Merci beaucoup, franchement j'ai hâte. Merci
facile,
beaucoup.
C'est fait. Merci à Paul, merci au maître Yodu, et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.